Vous écoutez France Culture. Aujourd'hui, Sciences publiques par Michel Albert-Ganti.
Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences publiques. Sciences publiques, votre rendez-vous scientifique du vendredi après-midi sur France Culture, vous donne la possibilité de poser des questions aux invités de nos débats. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Participer » sur le site de Sciences publiques sur franceculture.com. Vous êtes déjà nombreux à utiliser ce moyen de poser vos questions ou d'exprimer votre opinion. N'hésitez pas également à nous suggérer des thèmes scientifiques que vous aimeriez entendre traiter. En attendant vos messages sur le blog de Sciences publiques, bientôt, bienvenue dans notre cinquième émission. La technologie aide-t-elle à apprendre les langues ? Depuis l'introduction des CD-ROM dans les années 1980, les méthodes d'apprentissage des langues étrangères ont dépassé le recours aux livres et aux cassettes pour se convertir à l'ordinateur. Les logiciels se sont progressivement perfectionnés afin de tirer profit de l'interactivité offerte par ce nouvel outil. Il est ainsi possible aujourd'hui non seulement d'enregistrer sa voix et de réécouter sa prononciation, mais aussi de la soumettre à l'analyse de l'ordinateur afin de vérifier qu'elle est correcte et ainsi de progresser d'une façon à la fois plus efficace, plus autonome, mais aussi peut-être plus ludique. La machine prétend ainsi se substituer de plus en plus au professeur afin de permettre à l'élève d'apprendre seul. C'est du moins la promesse des éditeurs de logiciels d'apprentissage des langues. De même, les sites internet de langues fleurissent et font miroiter les mêmes résultats. Ainsi, les technologies de l'information et de la communication, les TIC, semblent bouleverser la donne d'un apprentissage qui reste l'un des plus délicats à l'école et peut-être encore plus après l'école, mais qui est devenu absolument indispensable dans un contexte de mondialisation accélérée, d'où le succès rencontré par de nouvelles langues, parfois difficiles à apprendre dans un cours classique, comme le chinois. Mardi 26 septembre, date de la dernière journée européenne des langues, le quotidien britannique The Independent a annoncé que les élèves devant passer le GCSE, c'est-à-dire l'équivalent du brevet des collèges en Angleterre, pourront étudier pas moins de 30 langues étrangères différentes. Ce petit miracle est d'autant plus remarquable que certains élèves pourront désormais apprendre la langue de leur choix, même s'ils sont les seuls à le faire dans leur école. Le système fonctionne en effet avec l'offre d'une société américaine, Rosetta Stone, créée en 1990 et qui est aujourd'hui présente, dit-elle, dans plus de 150 pays. Outre les langues européennes, ce sont l'hindou, l'indonésien, le coréen, le thaïlandais, le vietnamien, le japonais, le mandarin, l'hébreu, le turc ou le swahili qui sont ainsi désormais accessibles aux élèves de 50 écoles en Angleterre. Tant de promesses sont-elles réalistes? Peut-on vraiment apprendre plus facilement une langue à l'aide d'un ordinateur et d'un logiciel? Quelles sont les conditions de succès? La motivation est-elle réellement entretenue par l'interactivité avec une simple machine? Quel rôle conserve le professeur dans ce nouveau mode d'apprentissage? Quel progrès les logiciels peuvent encore accomplir? Pourra-t-on un jour apprendre une langue étrangère beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui? À ces questions et à celles que vous avez posées sur le blog de Sciences publiques, nous allons tenter d'apporter des réponses avec nos invités Catherine Goldman, Jean-Paul Narcicombe, Maggie Potier et Naji Soufi. Catherine Goldman est professeure d'allemand, coordinatrice du groupe d'expérimentation pédagogique langue et multimédia de l'Académie de Versailles. Jean-Paul Narcicombe est didacticien de l'anglais, professeur à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Maggie Potier est enseignante-chercheure à l'Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand et Naji Soufi, est PDG d'Oralogue, éditeur français de logiciels d'apprentissage des langues. Alors Naji Soufi, bonjour.
Bonjour.
Alors, une dépêche AFP datée du 27 septembre, c'est-à-dire avant-hier, mentionne, dans le cadre de cette sixième journée européenne des langues de mardi dernier, les derniers développements de votre gamme de logiciels baptisé Tell Me More. Pour l'apprentissage des adultes, semble-t-il, ce logiciel permet à l'élève de se mettre dans la peau d'un acteur de cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur cette façon de présenter un cours de langue ?
Oui, bien sûr. Avec la reconnaissance vocale que nous utilisons déjà depuis de longues années, nous essayons toujours d'aller un peu plus loin vers de la simulation de situations réelles dans lesquelles un apprenant qui veut apprendre une langue étrangère se retrouve en situation de communication, va pouvoir parler. La reconnaissance vocale permet justement donc pour l'ordinateur de reconnaître, d'analyser ce que dit l'apprenant. Et dans le cas de ces situations, à base d'extraits de films, nous permettons donc à l'apprenant de jouer le rôle d'un des personnages donc du film. L'apprenant va prendre la place du personnage, parler à sa place, et si son expression est suffisamment bonne et reconnue par l'ordinateur, le dialogue va pouvoir se poursuivre, et à la fin donc de l'extrait, il va pouvoir l'écouter en s'écoutant soi-même à la place de l'acteur qu'il a décidé de remplacer. C'est un exercice ludique qui permet justement de travailler d'une certaine façon un peu attrayante et qui utilise en même temps les technologies de reconnaissance vocale et la vidéo avec ces extraits-là.
Alors face à vous, Dajis Youfi, nous avons donc trois chercheurs qui travaillent sur cette pédagogie des langues. Maggie Potier, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes enseignante-chercheure à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, comme je l'ai dit, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Multimédia, dispositifs d'apprentissage et acquisition des langues ». Alors que pensez-vous des innovations dont Oralogue, là, par la voix de Dajis Youfi, nous a donné un aperçu ?
Bon, en ce qui concerne la reconnaissance vocale, je dois dire que je suis pas absolument convaincue de son efficacité, parce que quand vous, en tant que natif, vous parlez, vous n'arrivez jamais à faire exactement ce qu'il y a comme modèle qui est donné. Et je suis pas sûre que des apprenants arrivent véritablement à se servir de ces courbes pour modifier leur prononciation. Il faut bien voir une chose, hein, c'est que de toute façon, on n'a jamais aucune garantie de faire produire à quelqu'un une langue étrangère de manière correcte. Les profs se battent avec ça depuis toujours. Même si vous avez un natif en face de vous, il n'est pas dit du tout que vous arriverez à prononcer. Alors quand vous avez une courbe en face de vous...
Ça, il faut peut-être expliquer en quoi consiste cet outil pour les auditeurs qui n'auraient pas utilisé ces logiciels. Donc la courbe représente, c'est une représentation graphique de la prononciation. Najis Youfi, peut-être un mot.
Oui, en fait, la courbe n'est qu'un petit composant qui permet de visualiser la voix pour ceux qui ont des difficultés, certaines fois, à écouter ou entendre les différences. La courbe n'est qu'un petit élément. Il existe un ensemble d'outils beaucoup plus diversifiés qui inclut un score qui mesure éventuellement donc l'écart par rapport à un modèle et d'autres outils qui permettent d'identifier là où il y a l'erreur. Par rapport à votre point donc sur le natif, il est évident que les outils que nous avons n'ont pas du tout pour objectif de mesurer la qualité d'élocution d'un natif. Nos objectifs sont d'aider quelqu'un qui a priori ne parle pas correctement la langue à la parler un peu mieux en essayant d'imiter un modèle. Un natif, par exemple, écossais, qui est en train de parler, donc, qui est en train de parler à sa façon, va être forcément très éloigné d'un modèle éventuellement britannique Oxford et aurait probablement une mauvaise note. Mais l'objectif n'est pas de lui faire changer sa façon de s'exprimer. Là où l'apprenant, qui a priori ne parle pas bien, a besoin justement de ce modèle et nous l'aidons justement par la comparaison et la note que nous lui donnons à s'améliorer.
On va y revenir. Jean-Paul Narcicombe, bonjour.
Bonjour.
Donc en tant que didacticien de l'anglais, que pensez-vous de cette méthode décrite par Najis Youfi ?
Alors en tant que didacticien, je suis reparti sur les théories. Et bon, là, je vois un élément positif. Il s'agit d'une simulation, donc d'une interaction. Et fort probablement, ce genre d'activité va susciter une motivation qui peut être intéressante. Par contre, ce que nous disent les théories, c'est que pour que l'apprentissage ait lieu, il faut qu'il y ait à la fois repérage de ce qui se passe, des éléments langagiers et des écarts entre les langues que l'on apprend et celles que l'on parle, et le traitement de sens. Le tout, mais il faudrait que je voie le document, serait de mesurer s'il y a traitement de sens. C'est-à-dire si l'apprenant répète par cœur sans gérer le sens, auquel cas il va certainement améliorer sa prononciation et sa motivation et avancer. Mais s'il ne traite pas le sens, il n'est pas dit qu'il reste grand-chose. Mais là, il faudrait le voir et ça va dépendre des individus. C'est-à-dire que deux individus vont probablement apprendre très différemment avec le même logiciel, quoi qu'il arrive.
On va y revenir. Catherine Goldman, bonjour.
Bonjour.
Donc vous, en tant que professeur d'allemand et coordinatrice aussi de ce groupe d'expérimentation pédagogique de l'Académie de Versailles, peut-être vous pouvez nous expliquer quelle est votre expérience en la matière, quelles sont ces expérimentations que vous menez.
Ben, d'abord, je voudrais dire que je rejoins ce qu'a dit ma collègue, donc Maggie, sur la reconnaissance vocale. Et à mon avis, ce qui est proposé, donc, parce que étant moi-même germanophone, j'ai essayé à de nombreuses reprises, même si je n'ai pas testé la dernière version. Donc, je crois que ce n'est certainement pas une aide à améliorer la prononciation, mais plutôt l'intonation. Parce qu'en fait, on nous demande de reproduire un modèle intonatoire, ce qui est bien aussi. Mais ça ne permet pas d'améliorer la prononciation.
La différence pour vous entre les deux, peut-être
Vous pouvez l'expliquer. L'intonation, c'est en fait la courbe intonatoire d'une phrase. Donc, lorsque je pose une question, la voix monte à la fin de la phrase, etc.
Donc c'est la musique.
Voilà. Alors que la prononciation, c'est l'utilisation correcte d'un phonème qui est prononcé comme il faut, un nasal en français ou d'autres sons dans d'autres langues.
Najee Soufi.
Je pense qu'il faut bien faire attention à ce qu'on attend de la technologie et avoir éventuellement des ambitions peut-être un peu plus limitées. La nôtre, elle est très simple. On veut donner une fenêtre à l'apprenant qui est tout seul, qui éventuellement n'a pas l'occasion de parler, de s'entraîner et finalement de casser ces inhibitions qu'on a en général, que ce soit dans la salle de classe ou ailleurs, où on a très peu l'occasion de parler. Et on veut le faire avec un niveau donc d'interactivité qui est supérieur à ce que le laboratoire de langue traditionnelle permet. Il y avait des laboratoires de langue dans absolument tous les établissements scolaires, mais il n'y avait aucune interactivité. L'ordinateur apporte un supplément d'interactivité donc extrêmement élevé et va pouvoir justement donner une réaction. Est-ce que cette réaction est parfaite ? Est-ce que cette réaction est totalement pertinente ? Non, pas encore. Mais nous avons de longues années devant nous pour essayer d'améliorer les choses. Et en tous les cas, ce que nous faisons aujourd'hui est largement supérieur à ce qu'on pouvait avoir avec les laboratoires de langue traditionnelle.
Alors justement, là on est parti mis en tête sur la reconnaissance vocale et ses limites. Peut-être qu'on peut refaire un petit tour de table avec vous sur ce que vous interprétez comme étant des apports véritables de la technologie. On va peut-être commencer par vous, Maggie Potier.
Je voudrais, si vous permettez, revenir un petit peu sur la reconnaissance vocale. Je veux simplement qu'on tombe pas dans l'illusion technologique. C'est pas parce qu'on a des tuyaux qui sont efficaces que le contenu qui est dedans est bon. Et on a toujours eu cette illusion. On avait la même chose avec les laboratoires de langue dans les années 60. Les laboratoires de langue allaient permettre d'apprendre les langues. Bon, on voit le résultat aujourd'hui. Maintenant, c'est la technologie. Bien sûr que ça apporte des choses, mais ça apporte des choses suivant la façon dont on s'en sert, suivant ce qu'on met dedans et suivant l'accompagnement qui est derrière.
Oui, d'accord, mais en même temps, c'est deux choses un peu distinctes. Il y a les outils, les instruments et puis effectivement le contenu, c'est ça que vous voulez nous dire.
C'est ça, et je crois qu'on focalise trop sur les outils et pas assez sur les contenants.
Jean-Paul Narcicombe, c'est votre analyse également ?
En fait, moi je vais plutôt partir sur votre première question, la question antérieure. En fait, ce qui, moi, je trouve intéressant dans les technologies, ce qu'elles amènent, c'est une ouverture sur des contenus, sur la culture du monde. Ça, c'est important. Elles permettent aussi, et c'est bien là où vers quoi les logiciels d'oralangue voudraient aller, un entraînement individuel par deux et en même temps un accompagnement tutoriel qui, là, mériterait certainement beaucoup plus de recherche, qui fait que l'apprenant n'est pas seul si il y a eu une bonne réflexion sur le suivi qu'on peut lui offrir. Et la machine peut, en partie, lui offrir un suivi. Donc, je pense que l'apport, il est très, très grand. Maintenant, il est pour le moment nécessairement imparfait. Et ça n'a pas d'importance, comme disait M. Soufi. On a de nombreuses années devant nous pour aller mieux. Mais c'est vrai que, pour le moment, il y a quand même un certain nombre d'imperfections dans notre emploi des technologies.
Alors, Catherine Goldman, justement, globalement, comment vous appréhendez ces instruments ?
Alors, en ce qui concerne notre GEP, le groupe d'expérimentation pédagogique de l'Académie de Versailles, en fait, nous, notre travail ou ce que nous expérimentons avec nos élèves, notamment, ça tourne beaucoup plus autour d'Internet. Et entre autres, justement, ce qui est magnifique avec Internet aujourd'hui, c'est d'avoir à disposition à tout moment des ressources authentiques, en nombre illimité et complètement gratuitement.
Donc, ça, ce sont des ressources. Mmh. Et comment vous les exploitez?
Et les ressources, comment on les exploite? En fait, on les exploite en mettant nous-mêmes, on va dire en adaptant nous-mêmes une séquence pédagogique à la ressource que nous trouvons. Donc, tout comme on l'a pu faire avant, avec un texte qu'on aurait photocopié ou avec un film qu'on aurait enregistré ou donc une page de pub qu'on aurait pris dans un magazine. Donc c'est la multitude des ressources qui permettent donc des exploitations telles qu'on les a connues, mais d'une autre manière, c'est-à-dire aussi en utilisant bien sûr, dans ce cas-là, l'ordinateur.
Mais dans un cours, ce que vous décrivez, c'est un cours relativement classique, dans lequel simplement ces ressources Internet viennent apporter un plus.
Ben, le cours, tout dépend ce que vous appelez le cours classique.
Magistral,
que,
par exemple.
Ben non, ça n'est pas du tout un cours magistral.
Donc, c'est ça qu'il faudrait peut-être nous expliquer. Je ne vois pas exactement quelle forme ça peut
donc,
prendre.
Et de toute façon, même disant que si vous parlez de classique, ça veut dire être dans la salle de classe. Donc même là, je crois quand même que ça a beaucoup évolué. Et ce n'est pas, on va dire, de croire qu'aujourd'hui que les élèves ne parlent pas et qu'ils parleraient uniquement grâce à des CD-ROM ou des logiciels, c'est faux. Donc même à l'intérieur des classes, il y a énormément d'activités donc, pour avoir de la production orale où tout le monde peut parler en travaillant dans des ateliers, etc. Donc peut-être la technologie nous a apporté d'avoir une réflexion nouvelle sur l'utilisation donc, de choses déjà anciennes que nous pratiquions dans nos classes. Mais donc là... On va dire là, de faire des choses différentes en même temps avec des groupes différents, c'est possible avec un CD-ROM, tout comme avec autre chose.
Najee Soufi, on voit qu'il y a finalement deux grandes voies qui peut-être d'ailleurs peuvent interférer l'une avec l'autre, qui sont les CD-ROM et cette utilisation autonome d'un instrument pour apprendre tout seul, mais également Internet qui depuis peu devient un acteur majeur. Comment vous analysez cette dualité, on va dire, ou des interactions qui peuvent exister entre les deux voies?
Nous ne faisons pas la distinction entre d'un côté Internet ou de l'autre les CD-ROM. Nous parlons de contenus numériques qui sont accessibles et qui peuvent être passés par un support qui, dans certains cas, est le CD-ROM et dans d'autres cas, est Internet. Donc, la technologie, maintenant, peut être utilisée de façon assez différente. Je suis assez d'accord avec Maggie Potier qui disait tout à l'heure que la technologie en soi, finalement, ce n'est pas ça ce qui est important. L'essentiel, ce sont les contenus qui vont donc en parallèle et qui vont avec cette technologie, et surtout ensuite les usages, dont les usages donc, qui étaient évoqués tout à l'heure. Maintenant, si on veut faire éventuellement un distinguo, on pourrait mettre d'un côté l'auto-apprentissage, c'est-à-dire celui qui est seul et qui travaille avec son ordinateur, là où il y a 20 ans, il utilisait des cassettes audio ou des livres pour apprendre tout seul. Eh bien, on a ces situations donc, d'auto-apprentissage en autonomie, et de l'autre côté, l'utilisation donc de la technologie en parallèle avec ce qu'on pourrait appeler de l'enseignement classique ou des méthodes donc plus usuelles. Et là, nous parlons donc de formation mixte, de blended training, avec beaucoup de variantes, beaucoup d'usages possibles. Alors, on n'oppose pas l'un à l'autre, au contraire. Dans un cas, on répond aux besoins de celui qui est seul et qui a besoin de travailler. Et dans l'autre, on donne un outil à l'enseignant et on lui permet de travailler de façon plus diversifiée, plus efficace. Nous avons fait des études sur lesquelles je pourrais éventuellement revenir tout à l'heure, sur la mesure de l'efficacité, et nous voyons de façon évidente que lorsque quelqu'un travaille de façon accompagnée ou tutorée, donc avec un tuteur, eh bien les résultats sont meilleurs que ceux qui travaillent donc tout seul en autonomie.
Maggie Potier, comment considérer cet éventail de possibilités et quelle est, de votre point de vue, l'efficacité relative de ces différentes voies, c'est-à-dire, par exemple, entre les deux familles dont vient de parler Najee Soufi, l'autonomie de l'élève face à sa machine et finalement une utilisation mixte de la technologie au sein d'un cours plus humain, on va dire.
C'est-à-dire... les gens qui travaillent tout seuls parce qu'ils y sont obligés ou parce que c'est leur style d'apprentissage, je dirais, s'ils sont motivés et s'ils ont un certain nombre d'outils de travail eux-mêmes, ils peuvent arriver à quelque chose. Mais on sait bien le problème. On a toujours vendu beaucoup de livres pour apprendre les langues, puis de cassettes, puis de CD-ROM. Mais combien de temps les gens travaillent là-dessus? À quel moment s'arrête-t-il? Bon, c'est ça la vraie question, quoi. Et c'est à la fois un problème de motivation et un problème de ressources de la personne, quoi. Alors, à côté de ça, si vous voulez, je crois que, enfin, moi, ce qui me paraît le plus intéressant dans les technologies, c'est le fait de pouvoir les marier avec d'autres choses. Bon, ce qu'on appelle dispositif d'apprentissage, c'est déconstruit d'éléments variés qui supposent, mais ça, j'y tiens beaucoup, qui supposent une conception, un concept pédagogique à la base. Et dans un dispositif, on peut faire travailler les gens tout seuls, on peut les faire travailler en petits groupes, en plus grands groupes, on peut être en tête à tête, etc. Et l'intérêt, c'est d'avoir à la fois des outils de réception, c'est-à-dire ce que vous parliez de ressources tout à l'heure, avoir des outils de réception, avoir des outils d'échange, aussi bien échange avec un tuteur qu'échange avec des pairs, P-A-I-R-S, ou bien des outils de réalisation pour fabriquer un produit. Et à ce moment-là, la coopération ou la collaboration entre les apprenants, c'est un petit peu le moteur de l'apprentissage.
Jean-Paul Narcicombe, on voit bien qu'il y a un problème qui revient très souvent, c'est un peu la motivation. Est-ce que pour vous, ces technologies peuvent stimuler cette motivation et peut-être à long terme aider les apprenants à fournir un effort sur une longue durée?
À coup sûr, elles peuvent stimuler la motivation. Ce qui est important, c'est que vous parliez tout à l'heure d'efficacité. L'efficacité, c'est toujours par rapport à des objectifs. Et on va voir en quoi c'est lié à la motivation. Si l'apprenant sait construire ses objectifs et sait comment on apprend une langue, et c'est pas si simple que ça, là, il va peut-être faire un travail où il y a une pertinence par rapport à ses objectifs. Et donc, ce que l'on essaye de développer de plus en plus, et ça gagne bien sûr les écoles primaires et les lycées, c'est la responsabilité de l'apprenant par rapport à son apprentissage, parce qu'il est clair que de plus en plus, les apprenants apprennent seuls et en dehors de nous. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, l'Internet est une source d'apprentissage probablement plus grande que l'école maintenant, et ça, nous n'y pouvons rien. Et donc, c'est là où la motivation est importante, parce que si l'apprenant sait en tirer quelque chose, il va s'améliorer. S'il ne sait pas comment apprendre, à un moment, il va être submergé et ne pas arriver à avancer et se mettre en échec par rapport à lui-même. Et c'est beaucoup plus difficile d'être en échec en auto-apprentissage, parce qu'on est seul, qu'en apprentissage en groupe avec un tuteur, parce que là, bon, l'ensemble du groupe va vous porter un peu. Donc, je pense que c'est très motivant si nous savons prendre le train en marche et montrer aux apprenants qu'ils peuvent se débrouiller seuls, que c'est important qu'ils sachent le faire.
Alors pour illustrer notre propos, nous allons écouter trois petits enregistrements d'élèves justement face dans cette solitude dont vous parliez, seuls devant un ordinateur et un logiciel. Et ensuite, Najee Soufi nous commentera ces extraits.
My neighbors.
My neighbors.
My neighbors.
My neighbors.
Okay, that sounds fine.
Okay, that sounds fine.
Okay, that sounds fine.
Okay, that sounds fine.
Could you do that as soon as possible? Because I really need an answer on this.
Could you do that as soon as possible? Because I really need an answer on this.
Could you do that as soon as possible? Because I really need an answer on this.
Could you do that as soon as possible? Because I really need an answer on this.
Donc là, on sent tous les efforts de l'élève pour essayer de coller le mieux possible au modèle. Najee Soufi, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez étudié la progression? Est-ce que vous avez des espèces de groupes tests qui vous permettent de mesurer comment ça se passe?
Oui, en fait, peut-être pour redécrire un petit peu l'activité qui est évoquée par cet extrait audio, on est sur un petit peu le laboratoire de langue
classique,
disons, technologique,
oui.
Qui n'est pas classique dans la mesure où il y a d'un côté l'interactivité avec un retour qui est apporté
enfin, non, on la voit pas,
par un score, donc on ne la voit pas.
Ah,
donc
oui, dans l'extrait.
J'ajoutais l'information qu'on ne voit pas, en fait, avec le score qui arrive et qui mesure, en fait, l'écart par rapport au modèle donc, de référence qui est donné. En parallèle, il y a les courbes dont on parlait, et ensuite tout un ensemble donc, de fonctionnalités qui permettent éventuellement d'aller plus profondément donc, dans le travail, avec la possibilité de, lorsqu'on parle sur une phrase, de sélectionner une partie, un mot, et de travailler sur le mot spécifique, parce que c'est le mot qui a été mis en avant par l'ordinateur comme étant celui sur lequel il y avait l'écart le plus important, ou éventuellement d'aller travailler au niveau d'un son ou d'un phonème sur un ensemble de mots comportant donc ce son. Alors là-dessus, il y a tout un ensemble donc d'exercices qui sont possibles, et chaque élève finalement a un peu son style et s'accroche à ce qui pour lui semble être le plus efficace pour lui permettre en définitive d'arriver donc à améliorer, à faire des progrès. En ce qui concerne, si vous voulez, l'analyse, c'est vrai que ce n'est pas évident donc de mettre en place et de déterminer donc les progressions comme on le disait tout à l'heure. Par contre, moi je vous dirais que ça fait presque 20 ans qu'on travaille donc sur ce domaine. S'il y a quelque chose qui nous a permis réellement de réussir, et s'il y a une fonctionnalité qui est systématiquement demandée par tous nos utilisateurs, eh bien c'est bien la reconnaissance vocale pour ces activités qu'elle a et que nous avions déjà donc il y a presque 19 ans.
Alors on a vu des exemples sur des petites phrases, et des mots au départ, un peu des phrases un petit peu plus longues. On va écouter juste deux petits extraits supplémentaires pour montrer que ces exercices vont jusqu'à des formes de dialogue.
You have arrived in London, but you have problems. Someone asks you what's wrong.
Which street are you looking for?
I'm looking for a street called Bond Street.
Ah yes, I know it.
Oh, thank you. What a direction.
You have arrived in London, but you have problems. Someone asks you what's wrong.
Which street are you looking for?
I'm looking for a street called Bond Street.
Ah yes, I know it.
Oh, thank you. What a direction.
Donc là, on voit une évolution entre ces deux extraits, c'est que dans un premier cas, il y a des bips et dans l'autre, il n'y en a pas. Donc on se rapproche de plus en plus d'une espèce de situation réaliste, Naji Soufi.
Là, l'exercice est différent. On parle d'une simulation, donc d'un dialogue dans lequel il y a un échange concernant une situation de la vie courante.
Est-ce que c'est un dialogue ouvert au sens où la personne, l'élève, ne connaît pas la réponse du tout à donner ou bien est-ce qu'il doit simplement la prononcer?
Alors, pour le moment, l'élève a la possibilité entre plusieurs réponses possibles. L'ordinateur reconnaît la réponse possible qui a été donc prononcée et en fonction de cette réponse, poursuit le dialogue d'une façon qui peut être différente.
Catherine Goldman, la question est de savoir un petit peu comment ces outils peuvent s'intégrer à ce que vous nous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation du multimédia dans un cours que vous donnez. Est-ce que vous pensez que vos élèves pourraient tirer profit de ces outils en parallèle ou bien en simultané ou comment
Alors,
ça peut
se
passer?
Je pense bien sûr que les élèves peuvent toujours tirer profit, ça c'est certain, parce que de toute façon, on apprend une langue en la pratiquant et plus on la pratique et avec beaucoup, on va dire, de variété dans la façon de travailler, on fera forcément des progrès. Maintenant, ce que j'attends des nouvelles technologies, c'est justement de ne pas être avec les élèves pour qu'ils fassent quelque chose qu'ils peuvent très bien faire sans moi. Et notamment, là, c'est le cas. Donc, je vois ça dans un établissement, certes, mais plutôt, justement, en autonomie, puisque c'est fait pour cela, au CDI, c'est-à-dire la bibliothèque, le centre de documentation de l'établissement, ou éventuellement, en atelier. Pourquoi? Parce que justement, dans ce cas-là, ça me dégage du temps, professeur, de faire des choses avec les élèves, justement, où les technologies ne le remplacent pas.
D'accord. Donc le partage, pour vous, c'est de cette façon, c'est-à-dire de dissocier les tâches répétitives, finalement, le travail autonome pouvant être la solution, des phases pédagogiques plus intenses, on va dire.
De toute façon, l'autonomie est extrêmement importante dans l'apprentissage et pour toutes les disciplines, pour les langues aussi. Et nous avons actuellement encore un tas d'entraînements ou exercices qui sont un petit peu donc répétitifs, qu'on appelle les exercices structuraux ou de grammaire, où nous passons du temps également à les corriger. Ça, notamment, c'est une partie qui pourrait être très bien en charge par les technologies, avoir des exercices autocorrigés.
technologie aide-t-elle à apprendre les langues? C'est la question que nous posons aujourd'hui à nos invités dans Sciences Publiques. Nous recevons aujourd'hui Catherine Goldman, professeure d'allemand, coordinatrice du groupe d'expérimentation pédagogique langue et multimédia de l'Académie de Versailles, Jean-Paul Narcy-Combes, didacticien de l'anglais, professeur à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Maggie Potier, enseignante-chercheure à l'Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand et Nagi Soufi, PDG d'Oralogue. Notre débat d'aujourd'hui a suscité des questions et des témoignages sur le blog de Sciences Publiques et nous allons les poser à nos invités dans cette seconde partie de Sciences Publiques. D'abord, un assez long témoignage, il faut dire, de René Guichardin d'Annemasse et qui nous dit ceci. « J'apprends l'anglais depuis une année rien qu'avec Internet où je peux écouter la BBC, ses retranscriptions et suivre ses cours. » La radio australienne propose également nombre d'émissions à réécouter et qui sont retranscrites. De nombreux sites internet offrent également des exercices, l'explication des règles de grammaire, les grands dictionnaires sont consultables sur internet. Bref, il ne manque que la pratique de la discussion. Alors Nagi Soufi, voilà le cœur du sujet qui revient sans cesse au fond par rapport à l'utilisation d'outils informatiques. Est-ce que vraiment la discussion n'est pas la frontière infranchissable pour les CD-ROM?
Elle n'est pas infranchissable, nous y travaillons, mais en tous les cas, elle n'est pas disponible aujourd'hui. Le dialogue absolument donc ouvert, réel qu'on peut avoir, c'est pour après-demain.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque? C'est un problème de technologique au sens d'intelligence artificielle? Quelle est la brique qui manque aujourd'hui à l'édifice?
En fait, ce n'est pas une question d'une brique, mais de plusieurs briques. Et toutes ces briques existent un petit peu, mais ne sont pas encore suffisamment performantes pour que leur usage simultané donne un dialogue intelligent et derrière, surtout, pédagogiquement pertinent. Parce que l'objectif, ce n'est pas de parler pour parler, mais c'est d'avoir un certain objectif pédagogique. Maintenant, les activités, les exercices que nous proposons dans Telmimore en ce moment simulent et se rapprochent de ces dialogues-là et atteignent une partie de l'objectif. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas satisfaits d'une situation qui va forcément donc s'améliorer avec les évolutions technologiques, et c'est la raison pour laquelle nous continuons à investir en recherche et développement de façon assez lourde.
Maggie Potier, comment répondre à cette attente des auditeurs qui sont la pratique de la discussion, semble-t-il, dans des situations d'isolement, probablement, pour une part, parce qu'on imagine qu'en cours, quoique, on dit toujours, contrairement à ce que disait Catherine Goldman tout à l'heure, que les élèves ne s'expriment pas assez, on continue à le dire, même si d'après elle c'est faux. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'Internet pourrait, en soi, du fait de la communication qui s'y établit, qui est de plus en plus diversifiée, les moyens sont de plus en plus grands, est-ce que, dans ce cas-là, faute d'une technologie autonome, on pourrait imaginer de la discussion sur Internet?
Oui, ben, je crois que la technologie, elle avancera sans doute, mais ça pose quand même une vraie question, parce que est-ce qu'on parle de la même façon à une machine qu'à une personne? C'est-à-dire, est-ce que la motivation est la même quand on... Bon, les simulations, c'est très bien, on en avait fait dans le CD-ROM qu'on avait créé il y a 10 ans, qui s'appelait Camille. Il y avait des simulations où les gens choisissaient une réponse et créaient un dialogue qui bougeait en fonction de la manière dont ils réagissaient. Mais ça reste quelque chose d'un peu fermé, d'un peu fixe, quoi. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité d'un échange. Et je crois que cette motivation-là est extrêmement importante dans l'apprentissage des langues. Rares sont les gens qui apprennent une langue juste pour l'apprendre. Généralement, ils l'apprennent pour communiquer, pour échanger. Et Internet offre quand même un certain nombre de possibilités. Actuellement, elles ne sont pas terriblement utilisées parce que ça reste un petit peu complexe. Mais c'est quelque chose vers lequel on arrivera assez rapidement.
Jean-Paul Narcy, Catherine Goldman.
Oui, je voulais juste dire, mais est-ce qu'on attend ça d'un CD-ROM ou de la machine, en fait? Est-ce que ça a un intérêt? Donc, à part des rares personnes qui sont vraiment extrêmement isolées, et encore, on a justement avec Internet la possibilité, même pour apprendre, se trouver via la téléphonie par Internet ou autre chose, la possibilité d'avoir un vrai dialogue. Je ne vois pas d'intérêt à voir, ce n'est pas ça que j'attends d'un CD-ROM. Je ne vois pas, franchement pas l'intérêt, parce qu'il y a d'autres façons de dialoguer en vrai.
Pour l'instant, c'est pas comme le disait Maggie Potier, le dialogue en réel sur Internet est peu structuré. On peut pas téléphoner à n'importe qui. C'est pas toujours facile de trouver un interlocuteur.
Mais on peut trouver des interlocuteurs. Je veux dire, il y a des forums donc de personnes qui sont, je veux dire, liées par un même sujet, donc qui ont envie d'apprendre des langues. Il y a des procédures, des sites qui mettent ensemble en tandem des apprenants, donc Télétandem par exemple, ou qui mettent ensemble des classes ou des individus qui cherchent un partenaire qui, donc par exemple, un Français qui voudrait apprendre l'anglais, qui se met ensemble avec un Anglais qui aimerait apprendre le français. Et donc c'est tout à fait possible, ce n'est pas de la science-fiction.
Jean-Paul Narcicombe.
Oui, en fait, je pense qu'il serait plus intéressant de développer ce type d'échange en allant vers l'oral quand les gens veulent parler. Le clavardage a quelques inconvénients au niveau de l'apprentissage. Et si les apprenants avaient appris à l'école, ce qu'ils commencent à faire, à s'entraider et à s'indiquer mutuellement d'un pays à l'autre les petits problèmes qui arrivent, là, ils pourraient repartir en ayant rencontré un tuteur vers des logiciels qui sont dans des centres de ressources et travailler ses points faibles et retourner... s'essayer dans la vie, parce que je pense qu'on dépensera énormément d'argent à faire des simulations qui resteront toujours en deçà de la réalité, alors qu'il n'y a pas besoin de simulation, la vie nous l'offre. Il est de plus en plus facile, et vous avez entièrement raison, de dialoguer avec des gens sur Internet, si ces gens peuvent vous donner le feedback qui va permettre d'aller travailler, s'entraîner sur les petits points faibles. Et à ce moment-là, les outils développés comme Tell Me More peuvent jouer un rôle bien plus grand en tant qu'entraînement plutôt qu'en tant que simulation de la vraie vie, dans ce que je peux imaginer maintenant.
Najee Soufi, alors finalement, là, il y a de nouveau recompétition entre l'humain et la machine via Internet.
Pas du tout, il n'y a aucune compétition. Il ne faut pas opposer, en fait, une technologie, un outil, une méthode. En réalité,
typiquement, vous essayez de faire de façon artificielle ce que Internet va rendre possible de façon naturelle.
Ah, mais il est bien plus efficace de le faire de façon naturelle. Et si on a la possibilité d'avoir un ami anglais avec lequel on peut discuter, ou un professeur disponible, ça reste de toute façon la façon la plus efficace. Maintenant, tout le monde n'a pas toujours donc accès à ce genre de possibilités. Et il y a des méthodes, il y a des outils, il y a de la technologie. Et il faut justement utiliser la diversité de toutes ces techniques.
Très bien, vous en sortez bien, en fait, finalement. Anne-Laure Fouché, une autre auditrice, aborde la question dont on parle depuis le début de l'émission, pratiquement, qui est celle de l'articulation entre technologie et enseignant. Alors, elle nous dit, si on regarde d'un peu près les logiciels du commerce et les sites Internet, on s'aperçoit assez vite que les contenus ne révolutionnent pas toujours la didactique des langues, que la reconnaissance vocale a parfois bien du mal à reconnaître un natif, qu'en matière d'interaction et de communication, il y a mieux, et qu'il faut sans doute être un super apprenant autodidacte hyper motivé pour apprendre seul avec ces outils. Le potentiel des TIC pour l'apprentissage des langues me semble plus grand quand l'utilisation des TIC est articulée avec d'autres situations pédagogiques, le cours classique avec un enseignant et de vrais pairs, en chair et en os par exemple. Elle nous demande qu'est-ce qu'en pensent nos invités. En fait, elle a synthétisé pour une grande part ce que nous venons d'aborder, effectivement, sur le rapport entre cours classique et enseignant. Mais il y a peut-être, et je crois que c'est un autre auditeur, Monsieur Lalanne, qui aborde cette question, c'est celle, finalement, de la différence qu'il y a entre la formation continue et peut-être la formation après l'école et celle pendant l'école. Catherine Neumann, vous parliez de ces cours qui pouvaient intégrer de la technologie, mais une fois qu'on est sorti de l'école, on est peut-être un peu plus isolé. Alors, est-ce qu'il y a... Monsieur Lalanne nous dit, je souhaiterais savoir si, avec l'émergence des NTIC, la mise en œuvre de la formation ouverte à distance, tutorée ou pas, en faisant le distinguo sur la réponse, avait permis d'apporter de meilleurs résultats en termes d'apprentissage des langues étrangères par rapport aux méthodes traditionnelles en présentiel ou en laboratoire. Et si oui, à quel niveau? Donc, Monsieur Lalanne nous précise qu'il est responsable de formation d'une collectivité territoriale de 4000 agents. Alors, qui veut répondre? Jean-Paul Narcicombe.
Oui, j'ai envie de répondre parce que c'est à propos de la didactique des langues. En fait, c'est vrai que la plupart des logiciels et la plupart des apprenants sont très en deçà de ce que l'on commence à imaginer au niveau de la didactique des langues. Et j'ai entendu parler, par exemple, l'explication des règles de grammaire. Ce n'est pas nécessairement aussi important qu'on le croit. Il y a d'autres manières de produire du langage qu'en appliquant des règles. et que d'autres, de nouveaux logiciels pour aider à le faire. De la même manière, je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence fondamentale entre la formation continue, continuée ou l'école, si on décide, ce qui semble se faire dans l'Académie de Versailles, de déstructurer des groupes qui n'ont aucune raison d'être. Il y a des activités langagières qui se font à deux, d'autres à 30, et d'autres tout seuls. Lire est un acte totalement individuel, et réunir 30 personnes pour lire ensemble n'est pas si pertinent que ça. Par contre, ce qu'on peut répondre, c'est que jusqu'à présent, un apprentissage sans tuteur, c'est-à-dire sans personne capable de donner du feedback à l'apprenant, est nécessairement moins efficace. L'individu n'est pas en mesure d'entendre à la fois la langue étrangère et ses productions par lui-même. Il a nécessairement besoin d'être confronté. Seulement, ce qu'on ne sait pas, c'est que les meilleurs tuteurs sont souvent des pairs, c'est-à-dire d'autres apprenants qui sont nettement plus efficaces que tous les autres tuteurs, à condition qu'il y ait un enseignant pour organiser l'ensemble. Donc, je crois que c'est au niveau de la connaissance didactique qu'il y a besoin de repartir. Très peu de gens vont maintenant voir les derniers résultats. Évidemment, ils sont toujours un peu hypothétiques. Et souvent, les pratiques sont très, très, très rétrogrades avec des outils extrêmement modernes.
Maggie Potier, sur ces pratiques, finalement, donc, restent-elles rétrogrades malgré les progrès à la fois de la science, on va dire, et puis de la technologie ?
Il y a toujours eu, je crois, un recul didactique, pédagogique par rapport à une technologie avancée. Alors, bon, c'est en train de se rééquilibrer. Ils ont beaucoup évolué, les logiciels, et il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. On peut apprendre avec un logiciel, c'est clair. Mais le problème de savoir apprendre n'est pas réglé par les logiciels. Est-ce que je suis assez motivée ? Au départ, tout le monde est motivé. Au bout d'un certain temps, ça tombe. S'il n'y a personne pour pousser un petit peu dans la bonne direction, pour donner un coup de main, etc., beaucoup d'apprenants en formation à distance laisse tomber, quoi. On n'a pas de chiffres parce que on ne les donne pas en général, mais
vous les avez,
il y a beaucoup d'abandon. Non, je ne les ai pas, mais il y a beaucoup d'abandon dans la formation à distance parce que la motivation ne tient pas la route toute seule, sauf cas particulier.
Najee Soufi, est-ce que c'est exceptionnel finalement d'arriver à apprendre une langue avec tout seul devant son ordinateur?
La question de la motivation est la question fondamentale, et la technologie ne va jamais rendre l'apprentissage d'une langue tout simplement facile et immédiat. Donc, il faut du travail, il faut de la volonté, il faut avoir envie de le faire.
Il faut du temps aussi.
Et il faut du temps, bien entendu. Par contre, par rapport à un livre, à des cassettes audio ou à des méthodes, on va dire, traditionnelles, il est évident que la technologie et l'interactivité, la diversité des activités, tout cela va permettre justement quelqu'un qui est motivé d'aller beaucoup plus loin avec la technologie et de passer beaucoup plus de temps.
Est-ce que vous l'avez mesuré un petit peu, ça? C'est-à-dire en termes de taux d'abandon, de durée d'utilisation du cours et puis aussi de taux de réussite? Est-ce que tout ça est mesurable, mesuré?
En fait, tous nos travaux, tous nos développements essaye de privilégier deux indicateurs qui reviennent, qui sont d'un côté la durée d'utilisation et ensuite les résultats obtenus. La durée d'utilisation peut être mesurée, c'est plus facile. Les résultats obtenus, c'est plus délicat, mais nous essayons de plus en plus donc d'obtenir des indicateurs valables. Maintenant, il faut bien distinguer les usages.
Et vous pouvez
en
nous
réalité,
donner des résultats ? Vous pouvez
bien
nous donner
entendu.
Des résultats ?
Alors, au niveau donc du temps, ça dépend des différents marchés. On a évoqué tout à l'heure donc la formation professionnelle, finalement, en entreprise, où il y a la formation donc initiale en lycée et collège. Nous avons fait des mesures assez élaborées au niveau des entreprises et nous arrivons à avoir des taux de l'ordre de 80 à 90% d'apprenants qui vont jusqu'au bout de la formation, c'est-à-dire des taux d'abandon extrêmement faibles par rapport à ce qui existe dans des formations donc traditionnelles. Nous essayons en général de définir dès le départ le temps nécessaire et de faire en sorte que l'apprenant puisse consacrer les 2 heures par semaine sur lesquelles il doit s'engager pour aller jusqu'au bout d'une formation qui généralement prend 20, 25 ou 30 heures en fonction donc du dispositif dans lequel il s'intègre.
Donc c'est ça, les durées, par exemple, pour donner un exemple de ce qui est induit par l'utilisation de vos CD-ROM, c'est de l'ordre de 20 heures de formation ou c'est plus?
Alors ça dépend.
Ça paraît très court.
Ça dépend de la façon dont c'est intégré. Est-ce que ça fonctionne avec du tutorat? Est-ce qu'il y a des process mixtes dans lesquels une intervention a lieu d'une façon ou d'une autre? Ce que nous constatons, c'est que lorsque c'est de l'apprentissage mixte, mariant de l'utilisation individuelle avec du tutorat, de l'accompagnement et du coaching, on arrive à des résultats meilleurs que lorsque la personne est uniquement donc en autonomie.
Certes, mais je voulais juste que vous précisiez, en fait, vous faites des CD-ROM, donc pour apprendre une langue, et ce qui est prévu par l'utilisation de ce CD-ROM, c'est qu'on ait appris la langue en 20 heures ?
Ah, pas du tout.
C'est pour ça que c'est important à préciser, parce que ça peut donner...
On tombe dans la question des usages, bien entendu, qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus. L'apprentissage d'une langue, avec ou sans technologie, nécessite un peu plus de temps. En réalité, on est dans un cas d'utilisation, dans un usage bien précis, qui est la e-formation en entreprise, où un salarié d'une entreprise a et doit passer 20, 25 ou 30 heures pour travailler sur, avec un objectif donc bien précis, et nous mesurons sur ces bases-là. On a dans d'autres usages, notamment que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans le secondaire, des utilisations où les élèves, les apprenants, utilisent 50 ou 100 heures en fonction du cadre dans lequel il se trouve.
Donc en fait, le chiffre n'est pas fini, au fond, on peut
passer en réalité,
le temps qu'on
dépend.
Veut à apprendre une langue.
Lorsqu'on est dans une situation où les 50 ou les 100 heures sont indispensables, par exemple pour l'obtention d'un diplôme, là je peux vous garantir qu'ils sont obtenus.
Maggie Potier, vous voulez intervenir ?
Oui, l'obtention d'un diplôme, c'est une chose précise, mais beaucoup de gens qui apprennent les langues, si on mesure simplement le temps qui passe, ça ne dit rien sur le point auquel ils sont arrivés.
Alors, je peux répondre donc à ce point précis.
Très,
donc,
très brièvement, parce qu'on a beaucoup de questions, en fait.
Nous essayons, en fait, de mesurer donc un taux de progression avec toute la subjectivité qu'il peut y avoir par un test initial et un test final. Les chiffres que nous avons donnent et marquent donc des progrès significatifs sur 80 à 85% donc de la population. Et sur une échelle de 1 à 100, nous arrivons à peu près à des taux de progrès de l'ordre de 9, 10 ou 11%, ce qui en soit sur une période à peu près moyenne donc de 25 heures. Alors ce sont des chiffres comme ça, il faut rentrer beaucoup plus dans le détail. Si vous me laissez le temps tout à l'heure, je pourrais élaborer.
Mais je ne sais pas si on aura le temps, Catherine Goldman. Si, il y a aussi la multiplicité des langues à laquelle je faisais référence en début d'émission. Si par exemple, un élève va apprendre le Swahili dans l'Académie de Versailles, quelle est l'offre finalement pédagogique dans ce contexte-là?
Alors je ne peux pas vous répondre avec certitude sur cette langue, mais je crois qu'on ne peut pas l'apprendre. Donc... Mais
que faire alors dans ce cas-là ?
Alors, je pense, ce qui est important quand même, c'est déjà que lorsqu'on sort du système scolaire, on n'a pas fini son apprentissage de la langue ou des langues, ça c'est sûr. En même temps, l'apprentissage d'une langue, les langues se ressemblent, ou certaines plus que d'autres. Et en tout cas, les stratégies d'apprentissage qu'on acquiert en apprenant une langue sont utiles pour en apprendre d'autres. Donc, normalement, le système scolaire français permet d'en apprendre deux. Il est clair qu'un adulte qui n'a jamais appris de langue, à mon avis, n'apprendra pas de langue seul avec un CD-ROM ou un autre outil. Mais quelqu'un qui en a déjà appris deux ou trois peut plus facilement apprendre une troisième ou quatrième langue, donc seul, ça c'est sûr. Et le rôle de l'école est aussi, justement, est de montrer ce qui existe, de montrer justement les possibilités technologiques et autres, les ressources, la langue, c'est quelque chose de vivant, il y a des personnes qui la parlent, il y a des pays où on peut aller. Donc de montrer tout ça à l'élève pour qu'il continue son apprentissage après l'école et qu'il se perfectionne.
Jean-Paul Narcicombe, là on prend effectivement un autre angle qui est celui de l'apprentissage de l'apprentissage au fond d'une certaine façon et le fait que peut-être c'est la première, deuxième langue on va dire qui est la plus dure.
C'est à coup sûr la première langue qui est la plus importante, ça serait justement bien qu'on commence très tôt à condition qu'il y ait des tuteurs formés parce que si on doit apprendre aux élèves à apprendre, il est important que la personne qui est là pour les accompagner soit progressive. Soit bien avancé. Donc il y a tout un travail à faire et je pense que c'est très important parce qu'on parlait de mesures. Moi, en tant que chercheur, et Dieu sait si nous avons des jurys de thèse et des jurys de master 2, nous ne savons pas exactement mesurer, nous parlons toujours de triangulation de mesure et nous savons fort bien qu'aucun outil humain en ce moment ne peut nous dire ce qui s'est passé en 25 heures parce qu'on peut trouver des progrès, mais est-ce que ces progrès seront un indicateur quelconque d'une authentique progression langagière en situation authentique ? Personne ne peut le voir. Donc je crois qu'il est très très important de nos jours de se rappeler que personne ne sait exactement comment mesurer une progression en langue sur une aussi petite durée. Et alors là, par contre, si j'ai entendu notre collègue, c'est le seul point où je suis un petit peu en désaccord avec lui. Si un seul de mes étudiants me disait « en 25 heures, j'ai noté des progrès », je lui dirais « alors, il y a quelque chose qui me gêne ». Parce que c'est pas possible. Nous n'avons pas d'instrument humain qui nous permette de mesurer l'efficacité d'un apprentissage sur 25 heures, sauf du quantitatif sur des nombres de mots appris ou autres. Mais à ce moment-là, ce n'est pas de la production langagière. Je voudrais revenir là-dessus parce que c'est ça qui fait partie de ce que les gens ont besoin de savoir. C'est ce qui relève des connaissances approximatives que l'on a et ce qui relève de représentations sur la progression. Et si l'apprenant sait ça dès son plus jeune âge, il arrivera à se repérer dans l'emploi des outils et à leur donner une place que ces outils méritent. Moi, je n'ai absolument rien de contre les outils que décrit notre partenaire et je pense qu'ils peuvent jouer un rôle très très important, mais gardons-nous de fausses mesures.
Magui Potier, c'est votre avis également ? Impossible de mesurer des progrès sur des durées aussi courtes ?
Il y a des progrès qui sont faciles à mesurer, c'est quand on part de zéro et qu'on arrive quelque part. Ça marche. C'est une boutade, mais c'est pas une boutade en même temps. Quand les gens commencent à démarrer sur une langue, ils voient et on voit très bien les progrès qu'ils font. À partir du moment où on est à un niveau plus ou moins défini, on arrive à un autre niveau pas très défini non plus, il y a un aspect subjectif que je voudrais souligner et qu'on a pu observer dans les expérimentations qu'on a fait. On avait fait deux groupes, un groupe qui travaillait avec du papier, un groupe qui travaillait avec un logiciel. Et on a mesuré, bon, par un test avant-après, etc., on a mesuré ce qui s'était passé. Et il n'y avait pas une grosse différence. C'était il y a 10 ans, il y a 8 ans, mais les choses changent très vite. Il y avait beaucoup moins d'habitude de l'utilisation de logiciels, d'ordinateurs, etc. Donc je pense que ça aurait évolué. La différence n'était pas très nette entre les deux groupes, mais ce qui était très différent, c'était la perception. C'est-à-dire que ceux qui avaient travaillé avec le logiciel avaient l'impression d'avoir appris, et les autres, pas tellement. Donc ce côté attractif et ce côté... peut-être un peu poudre aux yeux, mais enfin, en même temps, ça fait partie du jeu.
Certains disent ludique, oui, justement.
Oui, ça marche aussi.
Alors, un autre auditeur, Pierre, pendant le cours de cette émission, nous envoie un message pour nous dire ceci. 75% des échanges, d'après une récente étude du British Council, se fait dans un anglais qui n'est ni américain ni britannique. Comment les logiciels d'apprentissage de langue tiennent compte de cette donnée alors qu'ils sont basés sur la reproduction d'un accent soit britannique, soit américain, Nagi Soufi?
En fait, nous avons deux séries de logiciels, Tell Me More, ceux qui fonctionnent en britannique et ceux qui fonctionnent en américain.
La question,
et
c'est que
le modèle...
La réalité n'est ni l'un ni l'autre, hein, c'est ça la question.
Disons que lorsqu'on est dans une situation d'apprentissage, il vaut mieux apprendre soit l'un, soit l'autre, et pas le troisième auquel on fait référence, qui est un petit peu un anglais international, qui a perdu de sa valeur. Maintenant, il vaut mieux apprendre bien plutôt que apprendre de façon approximative.
Oui, effectivement, mais en fait, c'est vrai que cette question se pose du fait de peut-être une dénaturation un peu générale des langues, en particulier de l'anglais, qui devient un anglais partagé par la planète entière, et de ce fait, crée peut-être une nouvelle langue. Il faudrait peut-être un jour des logiciels qui apprennent à parler l'anglais réel qu'on utilise dans les affaires, par exemple, ou dans la rue.
Mais l'anglais des affaires est très important, et on y travaille. Mais ça peut être un anglais des affaires américain d'ailleurs, et c'est celui-là qui fonctionne très bien et dont on a besoin en général.
Alors Samuel Petit à Paris fait un certain nombre de remarques et il soulève le sujet par exemple de la traduction automatique qui est un petit peu l'envers de notre débat d'aujourd'hui puisqu'il s'agirait d'éviter d'avoir à apprendre les langues. Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement un jour cette tour de Babel que reste la planète actuelle puisse utiliser des logiciels qui vont traduire en temps réel. C'est un des vieux rêves d'ailleurs qui avait été à un moment exprimé par le fabricant de microprocesseurs Intel, des appareils plutôt, à travers des puces qui pourraient traduire en temps réel le langage d'une langue dans une autre et donc permettre à des gens de dialoguer, chacun dans sa langue, en se comprenant. Qui veut répondre ? Jean-Paul Nassicombe.
Je crois qu'il serait plus facile à ce moment-là de développer des techniques d'intercompréhension de langue à langue, ce qu'on a déjà essayé de faire pour les langues romanes, les langues germaniques, les langues scandinaves.
C'est-à-dire
en fait apprendre à comprendre l'autre quand il parle sa langue et à lui répondre dans la nôtre en l'entraînant à comprendre la nôtre. Et ça pourrait se faire en Europe. Ça serait modifié, c'est-à-dire travailler plus l'écoute que la production orale qui, elle, est très très coûteuse en temps, de manière à ce que l'on comprenne 5 ou 6 langues et on ne parlerait quasiment que la sienne et peut-être
donc
bien entendu l'anglais.
Vous dites donc qu'on peut dissocier les deux.
Ah oui, tout à fait. Et de plus en plus, on cherche à le faire.
Maggie Potier, vous acquiescez.
Oui, tout à fait. Enfin, il y a des expériences qui ont été faites et un projet européen qui a travaillé dans ce domaine-là, sur les langues romanes, avec Internet également, c'est-à-dire avec des échanges où les gens parlent dans leur langue, répondent, l'autre répond dans sa langue, etc. Mais il faut bien voir que c'est une certaine limite. C'est pas apprendre une langue, c'est être capable de comprendre la langue de l'autre quand c'est une langue qui n'est pas très lointaine. Ce qui est le cas des langues romanes, par exemple, où une fois qu'on a compris un certain nombre de régularités, on peut arriver à comprendre.
Et la différence de temps d'apprentissage est de quel ordre en pourcentage d'être capable de comprendre par rapport au fait d'être capable de parler?
La différence est énorme parce que si vous regardez les langues romanes, tout ce qui est le vocabulaire abstrait, c'est le même vocabulaire. C'est plutôt des choses très quotidiennes qui vont être extrêmement différentes d'une langue à l'autre. Donc, par exemple, pour comprendre des textes ou pour comprendre des choses très générales, c'est pas si long que ça. Mais c'est difficile à chiffrer en temps.
Bien, notre débat d'aujourd'hui s'achève. Merci à nos invités. Vous trouverez sur le site de Sciences Publiques des références d'ouvrages et le site internet sur la traduction, enfin plutôt l'apprentissage des langues. Et sur le blog de Sciences Publiques, vous pouvez continuer à publier vos questions et réflexions sur les thèmes de nos futures émissions, dont je vais vous dire quelques mots. Vendredi prochain, 6 octobre, nous déserterons temporairement le studio 167 de France Culture pour nous rendre à la Maison Rouge, un lieu d'exposition d'art contemporain près de la Bastille où se déroulera un symposium organisé par le Computer Science Laboratory, le CSL de Sony, qui fête les 10 ans de son installation à Paris. Et notre thème d'émission sera « L'intelligence peut-elle être artificielle ?» Le vendredi 13 octobre, Sciences Publiques participera à la 15e fête de la science qui se déroulera du 9 au 15 octobre dans toute la France. Et dans ce cadre, nous intéresserons au Festival du documentaire scientifique Paris Science qui se tiendra du 12 au 16 octobre au Jardin des Plantes pour une émission dont le thème sera « Le documentaire scientifique doit-il être objectif ?» Enfin, le vendredi 20 octobre, nous parlerons de plastique végétal, mais avec une surprise dont je vous parlerai la semaine prochaine. En attendant, sur le blog du site de Sciences Publiques, sur franceculture.com, je vous rappelle que nous attendons vos questions sur les thèmes de nos prochains débats. Et vous pouvez, toujours sur ce site de Sciences Publiques, réécouter cette émission pendant un mois et la podcaster pendant une semaine. Sciences Publiques, une émission de Michel Alberganti, a été préparée par Catherine Donnet, avec Marie-Pierre Thivault à la réalisation et Claude Courteau à la technique.